Suivez Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On les appelle les petites mains de l'hôpital. Ces hommes, ces femmes que les patients ne croisent pas et pourtant, c'est aussi grâce à eux que l'hôpital fonctionne, tourne au jour le jour. Cuisiniers, employés chargés de préparer les plateaux repas ou de changer les draps des patients, électriciens, plombiers, logisticiens, ils ne sont pas soignants, mais eux aussi sont venus travailler pendant la période Covid, même quand les risques étaient inconnus en tout début de pandémie. Alors, quel est leur rôle au quotidien au sein de cet hôpital? Comment voient-ils leur métier, eux qui se sentent parfois oubliés? Et comment sont-ils perçus par leurs collègues en blouse blanche? Priorité Santé vous propose aujourd'hui des rencontres, portraits réalisés par Charlie Dupio au cœur de l'hôpital Lariboisière APHP à Paris. C'est dans le 10e arrondissement.
La période Covid, on a été oubliés, nous. Ils ont pensé plutôt aux infirmières, je veux dire les blouses blanches, tandis que les ouvriers qui sont en bas, qui sont en action aussi, on nous a oubliés. On nous a oubliés et on était là. Moi, je suis plombier. Je suis plombier à l'hôpital depuis 30 ans. On est des petites fourmis, donc. Et pourtant, les petites fourmis, ils arrivent à faire fonctionner les hôpitaux, mais on nous a oubliés carrément. Pas seulement les blouses blanches, mais. Les tenues en bleu, ils existent aussi. Plombiers, électriciens, peintres, chauffagistes, la cuisine, la blanchisserie. Nous existons aussi, voilà.
C'était le cri du cœur de Pierre Ramassamy, plombier à la PHP depuis près de 30 ans, hein, au sein de cet hôpital Lariboisière, là depuis 2016. Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour.
Alors vous avez passé une journée avec le personnel non soignant de cet hôpital parisien.
Oui, et la journée à l'hôpital commence tôt. Il fait encore nuit quand je rentre dans la cour. Nous avons rendez-vous dans les sous-sols de l'hôpital. On traverse des couloirs presque déserts, aux canalisations grises apparentes. Il est 7h30 ce matin et nous allons suivre la tournée d'Eddie Duflo qui travaille au sein du service blanchisserie de l'hôpital. C'est là qu'on s'occupe du linge, c'est-à-dire des draps et des tenues du personnel. Eddie travaille à l'hôpital Lariboisière depuis 10 ans. Il me dit qu'il est le plus jeune de son service. Avant que je n'arrive, il est déjà allé livrer, comme chaque matin, les draps des patients dans les services prioritaires, les services de réanimation, les urgences et les différents blocs opératoires. Là, il s'apprête à monter dans l'ascenseur, direction la cardiologie. Son chariot est rempli de draps jaunes, emballés dans des sacs en plastique par paquets de 10.
Là, j'ai fait ma préparation, des préparations de draps. J'ai mis les têtes d'oreiller, les chemises de patients et les draps pour les lits des patients.
Là, vous avez un chariot rempli.
Oui, c'est juste pour un service, c'est juste pour la cardio.
La cardiologie.
Cardiologie, oui. Excuse-moi. Non, vas-y, continue. Il faut que j'explique quelque chose un peu là-dedans. Non, vas-y, prends, serre-toi.
Et vous avez commencé à quelle heure ce matin?
6h30. 6h30.
Vous voulez déposer là sur une étagère?
Sur l'étagère.
Du service
cardiologie. Ça va, Java Christophe?
Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter?
Oui, alors, bonjour, je suis Java Christelle Gaga. Enfin, je suis artiste, chanteuse, mais je travaille ici, je suis aide-soignante. Mon vrai nom, c'est Janine Vacari. Donc, je suis aide-soignante en cardiologie, ça fait beaucoup d'années, depuis 2007.
Une fois qu'ils vous donnent du linge, qu'est-ce que vous en faites, vous?
Alors, donc, quand on nous donne du linge, nous, on utilise le linge pour nos patients. Par exemple, nous aussi, à l'USIC, on a 8 chambres. L'USIC, c'est le soin intensif de cardiologie. Unité des soins intensifs de cardiologie. Ils nous posent nos draps, nous on va les remettre en place comme il faut, et puis on les utilise. Dans la semaine, c'est tous les jours qu'on nous donne des draps. Donc on ne veut pas laisser les patients dans les draps sales, en fait. C'est d'abord, les soins, d'abord, c'est ça. Les premiers soins, c'est d'abord ça, être propre sur son lit, quoi.
D'où l'importance de son travail.
Voilà.
Et du vôtre.
Ouais, très, très important son travail. D'ailleurs, quand il ne vient pas, quand on ne les voit pas, on dit c'est pas possible, on n'a pas les droits. Donc vraiment, on dépend d'eux aussi. On dépend d'eux.
Et comment vous voyez ce travail-là, ce travail de lingerie au centre service?
Ouais, je trouve que c'est quand même pénible, hein, parce que, voyez-vous, tout la Riboisière, on a beaucoup de services, je ne peux pas les énumérer là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services, des sous-services, ce qui fait qu'il faut qu'ils aillent partout et donner du linge qu'on utilise pour les patients et donner notre propre linge à nous, qu'ils doivent mettre dans nos casiers. Donc c'est vraiment un travail pénible aussi.
Ça vous paraît pénible parce que c'est long ou parce que c'est aussi physique?
C'est physique aussi, c'est physique, parce qu'ils sont toute la journée debout. C'est physique.
On a besoin de tout le monde, il n'y a pas de sous-métier, même si on n'est pas soignant.
C'est ça,
c'est un travail d'équipe, en fait, comme je disais. C'est la team ici, c'est la team. Lui, quand il arrive, par exemple, dans notre service, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui vient pour nous donner que du linge. Il est considéré comme notre collègue. Même chose pour une femme qui est de surface, parce qu'aujourd'hui, on les appelle plus femmes de ménage, les femmes qui font de ménage. Pour nous, c'est notre collègue. Quelqu'un ne peut pas lui dire n'importe quoi ici. Voilà, c'est ça.
Et alors, vous êtes chanteuse aussi.
Mes chers collègues, mets dans la main et en équipe, humains restons toujours et patiemment. Pour le bien des patients. Et
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour être venu vraiment comprendre un peu comment nous on travaille ici.
Elle a tout dit. Heureusement qu'on est tombé sur toi ce matin.
Bonjour.
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 Alors, monsieur James, Jean Didier, je suis responsable de la lingerie de la Riboisière et de Fernand Vidal, l'autre site qui se trouve de l'autre côté, mais qui appartient à la Riboisière. Voilà. Là-bas, j'ai un agent et ici, j'en ai 5 qui travaillent sous mes ordres, comme c'est plus grand ici. Il y a des draps qui ont été lavés et qui nous reviennent par 10, qui reviennent de l'usine. Voilà, j'en ai un. Comme vous voyez, on vient de recevoir notre livraison de demain. Là, on en a reçu 1800 draps. C'est à peu près la dotation qu'ils demandent journalière pour l'hôpital, pour bien fonctionner.
Tous les jours, il faut 1800 draps.
Tous les jours, 1800 draps. Les urgences, par exemple, ils ont besoin de 200 draps pour tourner sur une journée. On va préparer 200 draps pour les urgences et 150 draps pour la salle de réveil. On est obligé de livrer en priorité ces services-là. Les urgences, la salle de réveil. En priorité, on prépare leur tournée. Après, on fait les tournées des autres petits services. Quand c'est sale, nos agents récupèrent le linge et les renvoient en usine.
Donc c'est lavé en usine.
C'est lavé en usine et nous, on fait la demande et nous les renvoient après au fur et à mesure. Alors on traite les vêtements du personnel. Quand le personnel a fini leur service le soir, ils doivent le remettre au sale ou dans les jours qui suivent. C'est nominatif. Chaque personne a ses tenues emballées. On fait quand même partie de la chaîne. Quoi. Si on n'a pas de tenue propre, ils ne peuvent pas aller travailler non plus. Sinon, ils vont travailler qu'avec du jetable. Alors nous, on leur donne des tenues tissées et des tenues à peu près propres tous les jours pour qu'ils puissent aller travailler. Quoi. Voilà.
Et alors, comment vous êtes arrivé là, à la tête de service de lingerie dans l'hôpital?
Comme j'avais fait 20 ans en usine, ils m'ont proposé de faire l'expérience ici. J'ai accepté.
Vous faisiez quoi avant en usine?
Alors en usine, c'était à la chaîne. On traitait les vêtements, les draps, on les lavait.
Pour des hôpitaux?
Pour tous les hôpitaux de Paris. Et j'ai vu que c'était assez compliqué, physiquement c'est compliqué. Et mentalement aussi, hein, parce qu'on fait toujours la même chose, c'est en usine. Hein. On traite les draps, les vêtements, les machins et tout. Moi j'étais ouvrier là-bas. Enfin chez nous il y a un roulement, ils appellent ça un roulement pour éviter les TMS quoi.
Les troubles musculosquelettiques.
Voilà, alors on tournait à chaque fois, toutes les semaines on tournait pour ne pas faire tout le temps les gestes répétitifs. Et moi, j'étais plutôt sur les emballages des tenues et après les traitements des draps, le passage des draps sur la machine. Parce que les draps arrivent au secteur propre mouillé, il faut les sécher à la machine. On a des machines immenses et tout pour traiter tout ça. Et ça, on avait une cadence à suivre. Quoi. Moi, je travaillais sur l'équipe d'après-midi. Une personne à l'engagement, je parle par exemple pour les draps, devait faire à peu près 1300 draps sur l'après-midi. Alors s'il y avait 12 postes d'engagement, vous imaginez combien ça fait à la journée? C'est à peu près 20 tonnes de draps par jour qui sont traités. C'est énorme, c'est énorme. Moi, ça fait 20 ans que j'ai fait là-bas, j'ai fait 20 ans là-bas.
Donc vous êtes passé de l'usine où on lave à l'hôpital.
Au relais de l'usine à l'hôpital. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, je suis fier de ce que je fais.
Et Jean-Didier James le disait, lui qui est responsable de la blanchisserie pour les hôpitaux Lariboisière et Fernand Vidal, il y a deux usines où sont lavées chaque jour les tenues des soignants et les draps des patients.
Oui, l'une, la plus grande, est adossée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On y lave 20 tonnes de linge chaque jour en moyenne. La seconde usine est située au boulevard McDonald, dans le 19e arrondissement de Paris, et on y lave 10 tonnes chaque jour. Alors, ces deux usines traitent le linge de tous les hôpitaux parisiens. Alors, il peut aussi y avoir des tensions entre les 6 employés de la lingerie qui distribuent et trient le linge et le reste du personnel de l'hôpital. Certains réclament un plus grand nombre de tenues ou disent ne pas avoir assez de draps pour les patients. Mais l'équipe de la blanchisserie doit respecter les dotations demandées par l'hôpital. Et pour certains aides-soignants, cela ne suffit pas toujours.
Et maintenant, on va rejoindre le service restauration, Charlie, là où l'on prépare les menus des patients.
Voilà, notre journée continue aux côtés du personnel non-soignant. Il est presque 10 heures maintenant et je retrouve l'équipe chargée des repas. Alors là aussi, on parle de quantité énorme avec à chaque fois ce qu'on appelle une carte plateau différente pour chaque patient avec ce qu'il peut ou non manger. Certains, par exemple, ne peuvent rien avaler de solide. Pour eux, on va donc leur servir des potages, des compotes. Dans le service, c'est Cécile Brochot-Lanéry qui m'accueille. Et heureusement, car je me perdrais sinon, elle est la responsable adjointe du service restauration de Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Vidal. À ses côtés, Olivier Balu, responsable restauration sur la traçabilité sur Fernand Vidal. Et vous allez voir, on ne rentre pas comme ça dans ce service.
Il y a une tenue spécifique puisque nous devons veiller à la sécurité alimentaire de nos patients et de nos personnels aussi. Alors, nous avons une charlotte, le masque. Pour les visiteurs, ils ont une surblouse et des surchaussures.
Alors, du coup, j'enfile la charlotte, ouais, charlotte. Sur les cheveux.
Et les surchaussures pour éviter les contaminations, les apporter dans les locaux.
Hop, merci, ouais. Voilà. On attache
plus
ça.
Plus fermé. Voilà, et puis vous avez un petit cordon autour de la taille pour refermer le tout.
On a chaud là-dedans.
Voilà. Alors il vaut mieux parce qu'il fait froid, on travaille dans des locaux réfrigérés hein, à 10 degrés.
Alors, merci.
Alors, on va aller directement en chaîne, chaîne de distribution. C'est l'endroit où nous confectionnons les plateaux des patients. Donc par jour, on fait 3500 plateaux pour les patients de l'hôpital Lariboisière et pour l'hôpital Fernand Vidal. Donc on va vous emmener au niveau de la chaîne de distribution et de confection de plateaux.
Alors on va voir directement les plateaux.
Voilà. Donc la chaîne de confection de plateaux se fait de 9h30 jusqu'à à peu près 11h15. Voilà. Donc là vous vous situez sur la chaîne de confection de plateaux qui est un local réfrigéré à 10 degrés. Voilà, pour maintenir la chaîne du froid. Voilà, tout à fait. Donc vous voyez que le personnel a une tenue spécifique, des surblouses, charlotte et masque, puisque nous avons en direct les produits alimentaires que nous manipulons, donc d'où l'importance du lavage des mains et de l'hygiène alimentaire. Voilà. Il y a en tout 9 personnes autour de la chaîne.
Alors on peut aller se rapprocher voilà. Peut-être, voir un peu ce qui se passe. Bonjour madame.
Bonjour.
Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Lauriane. J'ai 32 ans.
Alors, qu'est-ce que vous faites là, vous, madame ?
Alors, moi, je m'occupe de produits diététiques. On a des produits enrichis, hyper protéinés. Donc, je m'occupe à le mettre sur le plateau.
En fonction de ce qui est écrit là sur la petite fiche du patient, à chaque fois, il y a des indications sur ce qu'il peut manger ?
Oui, oui, en fonction du régime du patient.
Alors là, par exemple ?
Là, par exemple, on a Fortimel Mocha, Compact Mocha. Donc, c'est de boissons hyper protéinées. Que je mets, c'est de poisson lacté. Aujourd'hui, on a chili con carne. Donc, c'est un plat mexicain. Voilà. On a le riz avec les haricots et de la viande. Après, on a deux régimes à chaque fois. On a la viande et le poisson.
Et là, les plateaux avancent sur la chaîne et vous les remplissez au fur et à mesure.
Au fur et à mesure, oui.
Ça fait combien de temps que vous faites ça ?
Ça fait 4 ans.
Et vous êtes sur ce poste-là depuis 4 ans ?
Deux fois, je change, mais très souvent, je suis en diététique. Ouais. Je commence à 9h. À 9h30, on commence la chaîne. Donc, il faut arriver déjà à 9h15 et jusqu'à 16h30. À partir de 11h, on a une pause de 30 minutes. Donc, de 11h à 11h30, ça enchaîne.
Oui, parce que là, des plateaux devant vous, vous en avez 1, 2, 3, 4 déjà qui arrivent là.
Oui. Stop. Donc, du coup, on peut dire stop aussi pour se rattraper. Alors, on y monte un produit. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y a un plateau qui manque un produit.
Ah, vous avez une bonne vue alors.
Oui. C'est question d'habitude en fait.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail-là?
Enfin, c'est surtout servir l'être humain. Moi, je considère que je porte aussi ma part à la personne qui est malade et tout.
Les malades, est-ce que vous les voyez ou est-ce que vous restez ici à faire les plateaux?
On ne le voit pas. On peut juste regarder le nom.
Vous voyez un petit peu son nom, ouais, ce qu'il mange.
Voit si c'est une femme ou un homme, ce qu'il mange. Voilà.
C'est intéressant parce que du coup, vous aidez les malades, mais un petit peu de loin. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas à leur contact.
Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai le sentiment que c'est pas vraiment reconnu. C'est le sentiment que j'ai. Mais on est là. Pourtant, on est là.
Bon, bah, bon courage, alors je vous laisse, ça enchaîne.
Merci.
Là.
Merci, au revoir.
Alors là, les plateaux sont préparés et ensuite ils sont mis dans des chariots, empilés les uns sur les autres et ils partent.
Ouais. Vous avez Dominique Carrère, qui est le responsable de la production, puisque c'est une cuisine centrale et il y a une partie des aliments qui sont fabriqués.
Alors bonjour.
Bonjour.
Quels aliments sont fabriqués ici?
Tout ce qui est féculent pour les patients, le riz, les pâtes, la purée. Sinon, c'est beaucoup de produits qui sont surgelés, cuits déjà. Et voilà, sauf pour le réfectoire où on essaie de faire du direct. C'est du poulet cuit.
Le réfectoire, c'est pour le personnel de l'hôpital?
Pour le personnel de l'hôpital.
Et là, ici, c'est pour les patients?
C'est que les patients. Ce que vous venez de voir, là, c'est vraiment que pour les patients. C'est la chaîne de distribution des patients.
Et où est-ce que c'est cuisiné, alors, les pâtes, les féculents?
Ça, juste derrière vous. La petite porte, on va y aller ensemble.
Ah bah, super.
Il y a un peu de bruit. Par contre, c'est la ventilation. Donc là, il y a une marmite pour faire la purée, pour faire tout ce qui est sauce et sauteuse.
Ah, c'est une énorme marmite. Hein.
C'est des plus petites qu'on est là actuellement. J'ai un seul cuisinier sur 5 jours de travail.
Et vous avez un seul cuisinier pour tout l'hôpital?
Pour les deux hôpitaux, parce qu'on sert à l'hôpital Fernand Vidal aussi. Ils sont 4 ou 5 à tourner sur le poste. En fait, c'est un cuisinier. Bon, après, ils ne fabriquent pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup de produits qui sont déjà cuits sous vide.
Mais ça arrive sous la forme surgelée du coup ici?
Ça arrive tout surgelé. On a de gros congélateurs. En fait, les congélateurs sont plus grands que le poste de cuisine. Les 3/4 des produits sont surgelés. Ouais.
Est-ce que vous croyez que c'est possible de parler au cuisinier, s'il est d'accord?
Il s'est échappé.
Il s'est échappé, il a fui. Bonjour.
Là, je suis en train de désinfecter le... C'est du rôti de porc. Je suis en train de le désinfecter. Et après, pour pouvoir le découper par la suite.
Les rôtis de porc sont dans des sachets?
Sont dans des sachets et on désinfecte l'emballage. Parce que bon, avec les microbes, l'hygiène. Là, j'en ai pour 300 parts à couper.
300 parts, ah ouais, waouh.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Et donc là, c'est dans un évier,
dans
de l'eau.
Évier, dans un produit. Ensuite, je vais laisser tremper 5-10 minutes. Et après, je vais rincer. Et après, le découpage.
Et ça, c'est pour le repas de...
Demain, on prend de l'avance.
Et ça fait combien de temps que vous faites ça, vous, ici?
Ici? Je suis arrivé ici en 99. Et avant, j'étais sur un autre hôpital.
Donc 23 ans ici?
Voilà, comme cuisinier.
Et comment vous êtes arrivé comme ça, dans le milieu hospitalier?
Mon ex-femme était infirmière, et moi, j'étais cuisinier à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'avait pas de famille puisqu'on ne se voyait pas. Elle était du soir, moi, avec les coupures et tout ça, on ne se voyait pas trop. Et puis, un coup de bol, il cherchait un cuisinier et puis voilà, c'est comme
dans
ça.
Dans l'hôpital où elle travaillait?
Dans l'hôpital où elle travaillait.
Et à l'époque, vous étiez cuisinier dans un restaurant
Le restaurant traditionnel. Mais bon, ça s'est mal terminé, mais c'est pas grave. C'est des choses de la vie.
Et en quoi c'est différent, vous qui avez travaillé dans la restauration traditionnelle?
Là, c'est comment dire, C'est un petit peu industriel par rapport au traditionnel. Mais moi, quand je suis arrivé à la paix, on faisait les sautés, on cuisait les poulets, on faisait les omelettes. Maintenant, voilà, c'est de la découpe. J'ai un CAP, j'ai toujours fait ça. Hein. J'ai commencé à 15 ans, j'en ai 56. Donc ça fait un bail quand même. Quand je dis je travaille à l'hôpital, c'est dégueulasse. Ça, c'est une réputation qu'on a toujours eue.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Bah non, je suis pas d'accord. Puisque c'est nous qui préparons, donc on n'est pas trop d'accord sur le fait de dire, d'entendre les gens dire oh ouais, c'est pas bon. C'est un peu vexant, un peu. Un peu beaucoup même. Ouais, tu fais quoi? Cuisinier? Ah ouais, super. Et tu travailles où? Bah à l'hôpital. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, peut-être que je l'éteigne.
Ouais, sinon, ça va déborder là. Le produit pour désinfecter les rôtis.
Ah, ça y est. Et ça m'énerve un petit peu quand j'entends ça. J'en dis, bah on fait avec ce qu'on a. Hein. On n'a pas le choix. Je me souviens, quand je suis rentré à l'assistance publique, on faisait les lentilles. Les lentilles, c'était nous qui les cuisons. Maintenant, c'est des boîtes. C'est, voilà, tout est surgelé. Et même si on le travaille, c'est pas la même chose que quand c'est frais.
C'est pas le même goût.
Ben voilà, c'est ça.
Ce cuisinier au sein de l'hôpital reconnaît une perte de goût à cause notamment des normes d'hygiène, Charlie, très importantes à l'hôpital.
Oui, et Didier, c'est le prénom de ce cuisinier, enchaîne sur la découpe des tranches de rôti de porc maintenant désinfectées. Il a toujours un large sourire et pourtant lui aussi a commencé tôt à 6h45 ce matin. Alors on a entendu un peu plus tôt Lauriane qui travaillait sur la chaîne des plateaux, debout avec un tabouret au cas où derrière elle. Je l'ai interrogée sur la question de la pénibilité, de la cadence, mais difficile de répondre au micro devant ses responsables, on peut la comprendre. Et d'ailleurs, que ses responsables soient là ou non, le fait de savoir qu'ils vont sûrement écouter peut aussi brimer la parole. Ce sont des questions difficiles à aborder. Alors, le service restauration compte 67 personnes. Parmi elles, il y a aussi des agents dédiés au transport des chariots repas dans les services. Il y a, pour vous donner quelques chiffres, 38 chariots pour la Riboisière, 12 pour Fernand Vidal. Et puis, il y a aussi des employés qui travaillent au sein du magasin, là où sont reçues toutes les denrées alimentaires du lundi au samedi. Vous l'aurez compris, on remonte le fil de la production alimentaire au sein de l'hôpital. On est parti du plateau préparé pour le patient pour passer en cuisine, où sont assemblés les plats. Et puis là, on arrive au magasin, où travaillent 4 personnes chaque jour. Dans le magasin, on a 2 grands congélateurs à moins 20 degrés et puis une épicerie, où il fait meilleur, qui fait une trentaine de mètres carrés. C'est là que je retrouve l'un des employés au milieu des cartons.
Alors, je suis Monsieur Prévost-Christophe, j'ai 55 ans et ça fait 6 ans que je travaille à la Riboisière et j'ai déjà 35 ans d'assistance publique sur Paris.
Vous faisiez quoi avant ?
Je travaillais dans le même service à l'hôpital Bichat.
Voilà. Un hôpital dans le 18e arrondissement à Paris.
Tout à fait.
Alors là, c'est un peu votre endroit, du coup ?
C'est ça, ce sont les locaux du quotidien, quoi. Donc là, c'est tout ce qui est la partie épicerie, les produits secs.
Vous montrez ?
Oui, bien sûr. Alors donc, là, il y a les compotes, vous avez tout ce qui est gâteaux, les potages. Là, vous avez...
Des grosses boîtes de raviolis. Ouais. Là, on a plein de poires, des cajots de poires empilés les uns sur les autres.
Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que chaque jour, on reçoit de la marchandise pour 3500 repas, quoi. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un volume ici qui est important, quoi.
Ouais, là, on voit plein de cartons.
Ben, ça fait de la manutention, ça fait du sport, quoi.
Mais ouais. Tout ce qui est là, du coup, ça va partir là aujourd'hui, par exemple ?
Non, pas aujourd'hui, mais sur la semaine, oui. Donc, réception des marchandises dès 6h30. On reçoit les palettes, on les contrôle. Ensuite, on les range. Après, on fait des préparations pour les équipes de cuisson. Bon, bah après, il y a une partie manutention qui est importante. C'est le métier qui veut ça. Bah, on fait attention, on essaye, quoi. Il faut bien se baisser, il faut bien se relever. Il ne faut pas le soulever trop lourd non plus. Il ne faut pas que ça craque.
Vous avez déjà eu des douleurs, vous, au dos ?
Là, j'en ai en ce moment, là. Dans le bas du dos, ouais. On va se faire manipuler par le kiné, et puis on va repartir, quoi. Par moment, bon, bah, ça craque, et puis voilà. Et c'est tout. Ça fait partie du job, quoi. C'est pas grave, quoi. On est des petites fourmis dans notre coin, quoi. Puis, mais on contribue à ce que l'hôpital fonctionne, hein, donc, parce que les malades ont besoin de manger.
C'est intéressant ce mot que vous dites, les fourmis, les petites fourmis.
Oui, c'est ça. Bah, oui. Fourmis travailleuses, quoi, je veux dire, pour faire avancer la machine.
Mais, vous venez d'où, vous?
De l'Oise. 45 minutes de train. Bah, je me lève, il est 4 heures et quelques. Et puis on rentre vers 15-16 heures. Quoi. Voilà. On s'habitue à tout. Hein.
Fourmis matinales.
Fourmis matinales, voilà. Voilà, donc on n'est pas sur... Si on peut dire sur le devant de la scène, c'est pas notre rôle. Quoi. Nous, on est derrière, en coulisses. Quoi, voilà. Il y a, je pense, des métiers plus importants que le nôtre. Quoi. Ceux qui opèrent, tout ça. Quoi. Voilà. On a un maillon d'une chaîne, mais on n'est pas le plus important. Quoi. Mais bon, il faut qu'on soit là. Quoi. C'est pas le médecin qui va s'occuper de notre travail. Quoi. Et puis vice-versa. Quoi. Je me plains pas de ce que je gagne. Quoi. Je suis à au-dessus de 2000 euros par mois.
Net?
Net, oui. Bon, j'ai quand même 35 ans d'AP. Quoi. Mais bon,
d'expérience au sein voilà, de la science voilà, publique
voilà. Mais bon, je ne peux pas espérer non plus gagner 5000 euros par mois en n'ayant pas fait beaucoup d'études, ce qui est normal. Donc voilà, quoi, moi je suis à ma place. Ce que je gagne, c'est honnête. Quoi, voilà.
Vous êtes arrêté à quel niveau, vous, pour les études?
Moi, je suis arrêté en... J'ai fait une année de seconde, et puis après, j'ai quitté l'école. Je commençais déjà à travailler à 16 ans, quoi. Mais je faisais autre chose, quoi. J'étais pâtissier au départ. Au début, je suis arrivé en restauration à Bichat, je faisais de la pâtisserie pour la direction, et puis voilà, et autres, quoi. Transformé en... Après, deux ou trois concours internes en magasinier.
Vous travailliez, vous aussi, pendant le confinement?
Oui. On était là. Sentiment de... Je sais pas, d'avoir quelque part peut-être pris des risques, parce qu'au début, c'était un peu l'affolement, quoi. On aurait pu se dire, tiens, mais on va peut-être mourir, quoi, après tout. On sait pas, quoi. On y était, quoi. Donc, voilà, des fois, j'y ai pensé, ça m'a traversé, mais bon, après... Après, on n'y pense plus, quoi. Il faut que l'hôpital tourne, quoi. Donc, le malade, lui, Covid, guerre, il est toujours là. Bah, notre rôle, c'est d'être là, quoi. Voilà.
Et Christophe Prévost, qui travaille dans ce magasin du service restauration, se souvient de la période Covid.
Oui, et il se rappelle aussi du positif. Les dons, les chocolats, notamment les boissons, qu'il était heureux de recevoir pour les soignants et de leur transmettre. Il nous dit, ça leur a donné du baume au cœur. Il ajoute aussi dans un sourire, nous aussi, on a eu notre part de cadeaux. Et puis il dit que malgré les risques qu'à l'époque, en mars 2020, on ne connaissait pas, il était content de venir travailler. On sortait de chez nous, moi je vis seule, je serais devenue dingue.
Et d'autres rencontres à suivre dans ce grand reportage, aujourd'hui dans Priorité Santé. Priorité Santé, reportage. Priorité Santé sur RFI, grand reportage, une journée avec le personnel non-soignant de l'hôpital Lariboisière. Et c'est toujours avec vous, Charlie Dupiau.
Oui, et quand on pense au personnel non-soignant, on pense à la restauration, à la lingerie. Eh bien, il y a aussi les plombiers chargés de réparer les fuites et les électriciens. J'ai suivi deux électriciens en pleine intervention. Christophe Thomas, technicien supérieur hospitalier du secteur électricité sur l'hôpital Lariboisière, et Pascal Petit, son adjoint. Eux aussi travaillent dans les sous-sols auprès des réseaux électriques pour une intervention liée aux travaux de rénovation de l'hôpital Lariboisière.
Tu veux mettre les gants ou pas? On met les gants. On y va? Voilà. On est coupé. Maintenant, on va poser un cadenas pour que personne ne remette le courant, puisque comme on va démonter de l'autre côté, il vaut mieux pas qu'on remette le courant. On vient de débrancher un onduleur qui était dans un bâtiment qui va être détruit. Donc on l'a mis hors tension, qu'on puisse le stocker en attendant de savoir où on va le remettre.
L'électricité ici, dans cet hôpital, elle sert à alimenter quoi?
Elle est partout dans l'hôpital. partout. Il y en a partout. Ça sert à alimenter les machines médicales, l'imagerie, donc tout ce qui est radiologie. On en a pour faire fonctionner les cuisines. Il faut bien y nourrir les patients. Il en faut ne serait-ce que de l'éclairage. Donc l'appel malade, ces petites choses-là. L'appel malade, c'est la petite poire qui vous sert à appeler l'infirmière quand vous êtes couché. Quand vous ne pouvez pas vous déplacer, vous appelez... voilà, bah, ça s'appelle un appel malade.
Et pour ça, il y a besoin d'électricité.
Oui, parce que ça marche, on va dire, à l'électricité. Oui. Donc on en a partout.
Comment vous êtes arrivé là, vous, dans cet hôpital ?
Durant mon cursus scolaire, on a fait des stages et j'en ai fait un dans un hôpital. Et donc j'ai voulu participer à l'amélioration, à la qualité de vie dans le séjour des patients et aussi la qualité du travail des agents quoi, dans l'hôpital, les infirmières, tout ça. J'ai vu qu'elles avaient beaucoup besoin. Des électriciens, c'est très important dans un hôpital. Même le soir, la nuit, on est en présence permanente.
Il y a toujours des électriciens ?
Il y a toujours un électricien, et on a des électriciens logés, on monte des gardes, et on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Au cas où il se passe quoi ?
Eh bien, tout simplement, on tenait une coupure de courant de l'EDF. Et si on a une coupure de courant, on a des groupes électrogènes qui prennent le relais. Mais s'ils ne démarrent pas, ben là, vous mettez l'hôpital dans le noir. Donc là, on peut avoir de sérieux problèmes.
C'est déjà arrivé, ça ?
Pas sur notre hôpital. Sur un autre hôpital ailleurs en France.
Alors, nous, les électriciens, en fait, on est tous logés sur le site de la centrale d'énergie. Là où on a l'arrivée haute tension, là où on a les groupes électrogènes, on est mobilisable à tout moment, en fait. Donc, on peut nous appeler à n'importe quelle heure la nuit. Et puis, le matin, on reprend notre activité normale, à savoir nos horaires de travail. Et le week-end, la même chose, en fait. Donc, en fait, on est sur BIP, on nous appelle et puis on intervient.
Mais vous êtes donc dans la structure de l'hôpital, là ?
Oui, bah moi par exemple, j'habite au-dessus d'une crèche. Oui, parce que le personnel en fait de l'hôpital en fait bénéficie de certains services, notamment d'une crèche qui est partagée avec la mairie de Paris d'ailleurs. Et moi, j'habite au-dessus de cette crèche, voilà. Donc je suis séparé, mais j'habite là-bas avec mes enfants, voilà. Pour nécessité absolue de service en fait, c'est la contrepartie des gardes en fait. On n'est pas payé, c'est-à-dire quand on est appelé la nuit et donc forcément on fait beaucoup plus d'heures par rapport aux horaires normales. La contrepartie, c'est qu'on bénéficie d'un logement de fonction, en fait.
C'est gratuit pour vous, ce logement ?
Alors non, on paye des charges, mais comme c'est pour nécessité absolue de service, effectivement, on ne paye que les charges.
Pas de loyer ?
Pas de loyer, mais beaucoup d'appels. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'est arrivé, moi, ici, sur ce site-là, d'être appelé plusieurs fois par nuit. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, j'avais dormi à peu près 2h30 sur les 3 nuits. Mais c'est exceptionnel, hein, c'est variable en fait. Donc c'est vraiment une semaine complète où vous êtes complètement mobilisé en fait pour la continuité de service de l'hôpital.
Et cette semaine d'astreinte absolue, elle a lieu tous les combien ?
Alors nous sommes 5. Ça veut dire que nous sommes une semaine sur 5 complètement consacrés à l'hôpital, à savoir qu'on ne peut pas sortir.
Mais sinon, on a d'autres électriciens. Il n'y a que 6 électriciens logés sur l'hôpital. Tous les autres dans l'équipe, on est 14, ne sont pas logés.
Donc les 8 autres ne sont pas logés ?
Les 8 autres ne sont pas logés.
C'est un choix.
C'est un mode de vie particulier quand même. Il faut être capable d'encaisser les gardes.
Nous, ce qui est valorisant, c'est qu'on peut quantifier notre travail. C'est-à-dire qu'on souvent on arrive, ça ne fonctionne pas, on repart, ça fonctionne. Vous voyez ?
Moi, je fais mon travail. Pour que le séjour du patient se passe le mieux possible. Donc, alors, à notre niveau, hein, je ne parle pas au niveau des soins, hein, c'est autre chose. Mais à notre niveau, voilà, la personne, elle n'a plus de lumière, elle a un problème pour appeler l'infirmière, quelque chose comme ça. Bah, voilà, nous, on vient tout de suite, on le répare. Au moins, déjà, c'est un souci en moins pour lui.
Est-ce que vous avez le sentiment que les patients, par exemple, connaissent votre existence et votre travail ?
Pas du tout. Je ne pense pas que les patients sachent qu'on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, ils sont surpris des fois quand ils nous voient arriver en pleine nuit.
Les électriciens sont donc logés sur place à l'hôpital Lariboisière, Charlie.
Oui, et Christophe Thomas, qu'on a entendu, a lui un logement au-dessus des urgences. Il entend donc les sirènes, les cris, les hélicoptères aussi, car il y a un héliport à Lariboisière. Et puis on a aussi 6 plombiers qui sont logés dans l'enceinte de l'hôpital ou à proximité.
Et on revient à cette période Covid, justement. Comment a-t-elle été vécue par ces électriciens que vous avez rencontrés?
Il a fallu qu'on donne beaucoup de nous, m'a dit Christophe Thomas. Ils ont été très sollicités pour alimenter les respirateurs qui servaient dans les unités de réanimation Covid. Ils ont aussi été là pour transformer des salles de réveil ou des blocs opératoires en unités de soins intensifs pour ajouter des prises, protéger les alimentations électriques. Ils étaient d'autant plus nécessaires qu'aucune entreprise privée ne travaillait au début de la crise Covid. Et je cite toujours Christophe, « Quand un patient n'a plus lumière dans sa chambre, qu'il soit un patient Covid ou autre, on y va. » Alors qu'au départ, ces électriciens n'étaient équipés que de masques et de gants.
Et vous avez également rencontré un profil bien particulier.
Oui, quand j'ai voulu faire ce reportage sur le personnel non soignant à Lariboisière, on m'a tout de suite orientée vers lui, Christian Egido. Un profil particulier parce qu'il est à la fois aide-soignant et logisticien au sein du service cardiologie de l'hôpital Lariboisière depuis 20 ans. Il a donc d'abord été aide-soignant pendant 10 ans en service rythmologie, une spécialité de la cardiologie. Et puis, il est devenu logisticien. Grâce à son expérience, quand un soignant lui parle de certaines pathologies, il sait de quoi on lui parle. Je le retrouve dans son bureau, au cœur de l'unité de soins intensifs cardiaques. Mais il n'y reste pas longtemps, il entame sa tournée du matin. Alors, vous quittez votre bureau.
Alors, je quitte mon bureau. Donc là, j'ai l'avantage d'être directement dans les soins intensifs, ce qui me permet d'être vraiment à proximité de mon activité la plus importante, on va dire. Donc là, on va aller voir l'équipe des infirmières et des aides-soignants pour voir si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose, d'un matériel particulier ou quelque chose qui ne fonctionne pas.
Vous marchez beaucoup alors?
Oui, énormément. C'est un métier où, franchement, je marche beaucoup, énormément. Alors peut-être que là, ils sont en pause, l'équipe aide-soignante est en pause. Coucou.
Coucou.
Bonjour. Dites-moi alors, vas-y, dites-moi.
En fait, il manque juste un peu d'encre, tu sais, dans le défibrillateur, le premier là, qui est dans ce couloir-là.
D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'encre dans le défibrillateur.
Ah bon?
Non. Soit le papier n'est pas bien mis, mais ce que je vais vérifier, en fait.
D'accord.
Mais il n'y a jamais d'encre. Mais je vais vérifier ça, il n'y a pas de souci.
Mais tu avais commandé les seringues de 10?
Ouais, les seringues de 10, j'en ai, ouais. D'accord. Ah oui, j'ai vu, il y en a 3 en bas dans la réserve, au rez-de-chaussée, dans la réserve de gauche.
Et du coup, vous faites chaque matin un petit point matériel?
Oui, chaque matin, oui. Ou de toute façon, on a un tableau où on écrit ce qui manque aussi, ce qui manque, ce qui ne va pas et tout. Donc, mais après, il n'y a pas mieux que les transmissions orales, hein. Ça c'est sûr. Chaque matin, on a la visite de Christian qui vient nous voir si on a besoin de rien. C'est lui qui gère tous les petits problèmes du service, en fait. Sans Christian, on est foutu.
C'est le premier défibrillateur ou le deuxième?
Ah,
d'accord.
Donc là, vous allez voir le problème qu'elle a mentionné, cette infirmière.
Voilà, c'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, en cardiologie, l'appareil le plus important, on va dire, c'est le défibrillateur. En fait, on va décharger une décharge électrique qui va permettre de réactiver votre cœur. Donc, on va regarder là. Donc, on va allumer l'appareil. Alors, voilà. Voilà, vous voyez, le papier est un peu légèrement de travers. Peut-être que c'est ça qui est. Peut-être que c'est ça.
Voilà. Évaluation du rythme cardiaque.
Donc là, on voit bien.
Il sort bien.
Ouais. Il sort bien parce que le papier est de travers finalement.
Ouais, il était
coincé. Okay, ça. Donc, vous voyez, des fois, ça se joue à pas grand-chose.
Ouais.
Et souvent, majoritairement, à chaque fois qu'on m'appelle pour ça, ouais, c'est tout le temps la même chose. C'est qu'en fait, le papier est un peu de travers et forcément. Ouais. Eh ben, ça ne fonctionne pas. Mais là, on voit bien que ça fonctionne. Souvent, on m'appelle pour des petites choses comme ça. Le matin, j'arrive, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a le téléphone qui sonne, il y a un PC qui ne fonctionne pas, il manque du matériel, il faut aller chercher dans d'autres services du matériel parce que je n'en ai pas. Les logisticiens, l'hôpital, on est un peu les gens qui sont dans l'arrière-boutique du magasin. Nous, on est derrière, personne ne nous voit, on réapprovisionne les services, on fait pour que tout fonctionne, mais c'est vrai que ça ne se voit pas. C'est vrai qu'on est un peu invisible. Mais on est invisible, mais pas pour tout le monde finalement. Parce que les gens, finalement, ils ont besoin de nous. On le voit bien, de toute façon, que pareil, toute la journée, je reçois des coups de téléphone, je reçois des mails, les gens me contactent. Dès qu'ils ont un problème, on appelle qui finalement? Le logisticien. Et au bout de la chaîne, c'est toujours nous. Donc voilà, c'est sûr que quand on parle de l'hôpital, évidemment, les premières personnes avec qui on va penser, c'est plutôt les infirmières. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est le cœur du métier de l'hôpital. Et c'est elles qu'il faut défendre et c'est elles qu'il faut encourager. Et puis, on est là vraiment pour les soutenir. Moi, mon rôle, c'est de soutenir les soignants. Voilà. Quand je dis les soignants, c'est aussi les médecins, parce que les médecins, c'est aussi des soignants. Un patient, quand il vient à l'hôpital, lui, il pense médecin, infirmière et puis aide-soignant. Voilà. C'est, en gros, c'est les trois professions auxquelles il pense. Il ne va pas penser à l'électricien, au plombier, à l'informaticien, au magasin hôtelier, au magasin médical. Voilà, pour eux, tout ça, c'est... Non, ça ne se voit pas, en fait. Voilà, c'est ça. On sait très bien que les gens, c'est comme dans un grand magasin, on voit les vendeurs, mais on ne voit pas celui qui est sur le... qui est derrière dans la réserve et qui recharge les rayons tous les matins à 5h du matin avant que les clients arrivent. Quoi. En fait, c'est un peu ça aussi. C'est... Ah non, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, je sais que quand je parle de mon métier, je suis plutôt fier.
Qu'est-ce qui vous rend fier, vous, de votre métier ?
Bah moi, ma satisfaction personnelle, c'est d'avoir déjà de faire un métier où déjà je suis heureux de le faire. Je suis heureux de venir tous les matins à l'hôpital et de travailler en équipe parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que même si je suis tout seul dans ma fonction... Finalement, je travaille en équipe. C'est-à-dire que moi, je suis content de retrouver mes collègues infirmières, aides-soignants, les médecins avec qui je travaille, mon encadrement, le magasin médical, le magasin hôtelier avec qui j'ai des très bonnes relations. Mais c'est ça la petite fierté, c'est de dire, voilà, on a bien fait notre travail, en fait. Parce que je me mets toujours à la place des gens. Parce que moi aussi, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Et je sais que c'est important de se sentir en sécurité. Qu'à ce moment-là, on est dans un moment de faiblesse. Un moment où on dépend de l'autre, en fait. Nous, on cherche que nos patients soient en sécurité, que quand ils veulent, que tout va fonctionner, que tout va rouler, que tout fonctionne, que tout s'emboîte, finalement. Et c'est ça, en fait, la finalité de l'hôpital. C'est que vous rentrez, on vous soigne, et vous ressortez en bonne santé. En tout cas, on s'est occupé de vous.
Et vous, même sans être soignant, en étant logisticien, ouais, vous contribuez à ça?
Mais évidemment. Si je ne donne pas des seringues aux infirmières, ou des pansements, si derrière, il n'y a pas tout ça, ça ne peut pas fonctionner.
Et maintenant, Charlie, vous nous emmenez là où Christian Égido va s'approvisionner.
Oui, dans le magasin hôtelier de Larry Boisière et Fernand Vidal, un immense entrepôt dont on ne mesure pas l'étendue quand on y rentre. Je rencontre le gestionnaire des stocks au sein de ce magasin hôtelier. Ses collègues n'en disent que du bien. Il travaille ici depuis 17 ans. Je le laisse se présenter.
Donc, je m'appelle Foulou Boulou, français d'origine congolaise. Ça me fait rire puisque ce n'était pas prévu que je travaille à l'hôpital. Dans la conscience des gens, travailler à l'hôpital, ça veut dire infirmier, médecin, radiologue, toutes les spécialités liées aux soins. Bon, moi, j'étais dans la gestion des stocks, dans les privés. Bon, après mon licenciement économique, j'ai cherché un emploi. Et il y avait les trains pour l'emploi à la gare d'Austerlitz, des trains qui ne bougeaient pas, qui étaient immobilisés dans des gares. Et il y avait des offres d'emploi. Je suis rentré dans le train. L'activité principale, c'était la santé. J'ai vu rien qui m'intéressait. Mais en sortant, il y a une dame qui m'a interpellé. Il m'a dit, oh, monsieur, est-ce que vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous intéresse? J'ai dit, non, rien du tout. Il dit, vous faites quoi? Moi, je suis gestionnaire de stock. Elle m'a dit, mais à l'hôpital, il y a des gestionnaires de stock. Quand on dit hôpital, pour moi, c'est les soins. Je ne voyais pas autre chose. Et depuis, je suis là. Cette partie-là, c'est tout ce qui est sur palette. Donc, c'est les gros cartons sur palette.
Donc là, on voit des gants, par exemple.
Gants. Il y a des gants. Ça, c'est des bocaux à urine, des sacs poubelles, 110 litres noirs. Là-bas, des papiers photocopie blancs. Savon pour se laver les mains. C'est les matériels qui étaient très importants pendant le Covid.
Là, on a des choses, hein.
Ouais. Ça, c'est des charlottes. Ça, c'est des... masque FFP2 qui était recommandé pour le Covid. Ça protège mieux que les autres. Des pyjamas. On participe à la réception informatique, physique, rangement, préparation des commandes, livraison des commandes.
Et c'est pas trop lourd à porter tout ça?
Bon, il faut faire attention, c'est pourquoi on a des outils. Si on va de l'autre côté, vous allez voir peut-être nos chariots. Et les autres chariots sont là. Donc tout ça, c'est pour ne pas porter... Tu poses sur ton chariot et puis tu te déplaces. À mon âge, surtout, il faut faire attention. Tu portes intelligemment, tu plies tes genoux, tu essayes de respecter les consignes.
Vous avez quel âge là?
62. Ça se voit pas. Je suis le doyen du service, en fait. Mon père voulait que je sois médecin. J'ai toujours dit non. Donc, je n'ai jamais pensé travailler dans un hôpital. Ce n'était pas dans mes projets.
Et aujourd'hui, est-ce que vous en êtes fier de votre métier? Comment vous le voyez, votre métier?
Mais c'était pendant la période de Covid qu'on a vu notre importance. C'est-à-dire quand il manquait de matériel, il manquait de masques, il manquait de gants, il manquait de vêtements de travail, c'est-à-dire des blouses, des pyjamas, usage unique pour les patients et pour les soignants, des gants, des protections, des masques, tout ça. J'ai vu que c'était très important, la logistique dans l'hôpital, parce que c'était à nous d'aller chercher où on peut trouver le matériel, relancer les fournisseurs qui étaient en rupture, voir avec d'autres hôpitaux pour nous dépanner. Et quand on avait le matériel, c'était comme si on avait gagné au loto. Puisqu'on parle de soins, c'est bien, c'est l'activité principale. Mais si on n'a pas de matériel, si les soignants n'ont pas de matériel, les médecins n'ont pas de matériel, ils ne peuvent rien faire. Je prends toujours l'exemple de la guerre. Vous avez des soldats bien formés, mais s'ils n'ont pas de matériel, s'il n'y a pas la logistique qui suit derrière avec des munitions, les repas pour qu'ils mangent, il faut qu'ils mangent, ils ne pourront pas gagner la guerre. Donc, on l'a vu pendant le Covid. C'est en ce moment-là que j'ai vu l'importance de notre métier. Ce n'est pas des seringues, ce n'est pas des produits chimiques, mais c'est très important pour équiper les soignants. On équipe les soldats. Tu prends conscience qu'on fait quelque chose d'exceptionnel. On assiste à quelque chose d'exceptionnel. Donc, moi, personnellement, dans ma vie, c'est une période que je n'oublierai jamais. Et bon, c'était une fierté quand même. Je dirais ça à mes petits-enfants. Il y a eu une période difficile en France, en 2020, 2021, 2022, et on avait contribué quand même à faire quelque chose pour lutter contre le Covid-19, puis ça reste dans l'histoire.
Et Alain-Claude Foulou-Wouhoulou, qui travaille au sein du magasin hôtelier de l'hôpital Lariboisière, prend sa retraite bientôt.
C'est ça, dans un an et demi précisément. Je lui ai demandé en partant, on est dans les sous-sols, est-ce que ça ne vous dérange pas de travailler là? Et il m'a répondu, c'est vrai, on est à la cave, mais une cave dorée, parce qu'on y joue un rôle important. Et d'ailleurs, quand il y a une rupture de stock dans le service, on se jette sur nous en disant, on ne peut pas travailler, il nous manque ça, des vêtements, des pyjamas, des gants. Voilà, alors je n'ai pas pu suivre toutes les personnes non-soignantes de cet hôpital, je n'ai pas pu suivre notamment les personnes qui s'occupent du ménage, alors qu'elles sont 131, ni non plus de la sécurité. Malheureusement, il et elle travaillent pour des entreprises sous-traitantes, c'était plus compliqué d'obtenir les autorisations nécessaires. Mais merci à Pierre, Eddy, Jean-Didier, Cécile, Lauriane, Didier, Christophe, ils sont deux, Pascal, Christian, Alain-Claude, tous ces travailleurs non-soignants qu'on a pu entendre dans ce reportage et qui, vous l'aurez compris, sont les petites fourmis de l'hôpital, sans qui cette immense machine aurait beaucoup de difficultés à tourner.
Des fourmis indispensables à l'écosystème. Merci à vous, Charlie Dupiot, pour ce reportage, avec à la réalisation Didier Bleu. Et Priorité Santé touche à sa fin. À demain, si la portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.